fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Nous allons parler des incendies, comment les prévenir. Il y a eu dernièrement à Kinshasa un incendie causé par un dépôt des carburants qui a causé beaucoup de dégâts matériels. Heureusement, il n'y a pas eu un bilan lourd par rapport aux êtres humains. Il n'y a pas eu de décès d'après les informations reçues. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ces genres de situations parce que ça, c'est récurrent. Nous avons en ligne Monsieur Nixon Zinga, président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz. Monsieur Nixon, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Bienvenue dans cette émission de La Vie au quotidien qui s'intéresse à la question des incendies. Vous voulez participer, mesdames et messieurs, appelez au 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapille.net. Marcel Ngombo assure la coordination et la réalisation de cette émission. Mimi Kindou à la mise en onde, Jody Daniel au micro. Bienvenue à tous.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Bien, nous parlons à présent, nous allons parler à présent des incendies. Vous savez, les incendies sont fréquents dans les quartiers populaires de la RDC. Le dernier cas en date à Kinshasa, c'est celui d'un dépôt des carburants au quartier des Bonhommes dans la commune de Matete. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés selon le commandant de la police nationale congolaise. Du mot en bas, les mauvaises conditions d'entreposage des produits pétroliers seraient à la base de ces sinistres. Alors quels sont les causes des incendies, quels sont les moyens pour les prévenir, surtout les incendies causés par les produits pétroliers? On en parle avec nos invités, Monsieur Nixon Zinga, président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz. Monsieur Nixon, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les incendies causés par les produits pétroliers? Parce que, selon nos sources, c'est très dangereux et puis ça peut causer beaucoup de dégâts.
Oui, effectivement, c'est des mesures, hein, des préventions contre les incendies. Donc, par là, c'est premièrement, la mise en place des matériels de sécurité incendie. Je ne vais pas dire des matériels de lutte incendie. On ne lutte pas contre l'incendie, mais on se sécurise. Parce que l'incendie, quand on voit un incendie, on voit la mort. Donc, il y aura déjà des pertes en vie humaine, des pertes matérielles, et aussi la pollution, parce qu'il y aura la fumée, donc il y aura la pollution. Donc c'est la mise en place des matériels ou des dispositifs de sécurité incendie. Les premiers matériels, c'est des extincteurs. Après les extincteurs, ils permettent seulement d'éteindre un départ de feu, mais ajouter à ces extincteurs maintenant des dispositifs lourds du genre un réseau incendie armé, donc de l'eau avec émulsion et des pompes incendies qui vont être installées sur un entrepôt comme ça. Mais cela ne suffit pas, c'est aussi un corps de sapeurs-pompiers. Donc lorsque le moyen interne au site ne suffisent plus, il faut maintenant l'intervention de corps de sapeurs-pompiers qui vont intervenir avec des moyens un peu plus costauds et pour éteindre les feux. Donc voilà. Donc c'est la mise à disposition du matériel sécurité incendie. Ça c'est le point 1. Et deuxième point, c'est la formation. Les travailleurs qui sont dans de tels sites doivent être formés. Un recyclage chaque 2 ans avec une formation au feu réel. Donc ils doivent passer à une école de feu où on allume les feux et les gens sont exercés par rapport à ça. Donc ce sont les deux moyens. Premièrement, la mise à disposition du matériel et deuxièmement, la formation du personnel. Voilà.
Bien. Et par les produits pétroliers, comment faut-il les entreposer pour éviter qu'il y ait une catastrophe?
Alors, dans le cas de Citerne, hein, sauf qu'il y a un dépôt pétrolier, tous les dépôts que tu vois en Citerne, les dispositions sont prises pour que lorsqu'il y a incendie, qui peut être naturel, hein, l'incendie, ce n'est pas seulement causé, hein, par une erreur humaine, mais ça peut être aussi une foudre, un champ magnétique. Donc, on a aussi des incendies qui sont d'origine naturelle. Alors, donc, dans les cas comme ça, qu'est-ce qu'il faut? C'est la prévention. Donc, les dépôts que vous voyez, des mesures sont prises, et dans les cas, par exemple, des grands dépôts pétroliers, des mesures sont prises, des matériels, les personnels est formé. Alors, dans les cas des dépôts que nous avons à la cité, c'est là où il y a le problème, le produit sont entreposés dans de fûts en plastique ou de fûts métalliques. Alors, dans des cas comme ça, de tels lieux doivent être sécurisés. Donc, mettre du matériel, des extincteurs ou un réseau armé, un RIA, réseau incendie armé, et aussi avoir des numéros d'alerte pour le corps des sapeurs-pompiers qui a des capacités assez importantes dans les cas d'incendie déclaré. Donc voilà.
Bien, donc il faut bien garder les produits, vous avez dit, dans quel type de récipients
Ils peuvent être dans des récipients plastiques ou métalliques, hein, mais les métalliques sont plus conseillés que les plastiques. Les problèmes, c'est les mesures de sécurité.
Donc même si les produits sont gardés dans des fûts, c'est toujours dangereux.
Oui, il faut qu'il y ait des mesures de sécurité. Donc tous ces entrepôts, normalement, il faut les auditer et des spécialistes vont proposer, ils vont faire une préconisation, on appelle ça comme ça, proposer les différents dispositifs à mettre en place. Si les dispositifs sont mis en place, je vous dis, il peut y avoir un départ de feu. Et ce départ de feu sera maîtrisé. Donc même les hommes de l'extérieur ne sauront même pas qu'il y a eu un départ de feu. Les problèmes, il y a eu départ de feu, après il y a eu propagation. Donc voilà un peu.
Bien.
Donc, ces entrepôts doivent être inventoriés. Tous ceux qui sont dans la cité, hein, il y en a à gauche, à droite, ils doivent être inventoriés et proposer des mesures de sécurité. Pour que les gens qui travaillent et les environs soient en sécurité par rapport aux incendies.
Bien, on a appris que les produits pétroliers ne supportent pas surtout la chaleur. On peut bien les mettre dans des fûts ou dans des bidons, mais si la température ambiante devient de plus en plus chaude, ça peut causer des incendies.
Oui. En fait, pour qu'il y ait un incendie, il faut qu'il y ait la combinaison des trois éléments importants. Donc, il faudrait qu'il y ait le combustible, dans les cas ici, les produits pétroliers. Il faut qu'il y ait de l'air. Et le troisième élément, c'est une source d'ignition. Donc, le feu, là, doit avoir une source. Quelle que soit. Alors, il y a cette notion d'explosivité. Donc, les produits peuvent exploser de lui-même suite à une augmentation des températures. Alors, je vous pose la question, nous sommes dans des pays où on peut arriver à 42 degrés, mais le feu est là, il n'explose pas. Donc, quelle que soit la température, il y a un certain niveau de température où les produits peuvent exploser. Mais dans les cas ici à Kinshasa, je ne vois pas à quel niveau de chaleur que les produits peuvent exploser. Donc, il s'agit seulement des mesures de sécurité dans tous ces entrepôts qu'on retrouve dans la cité.
Voilà, des questions et préoccupations par rapport à cette question, appelez-nous au 081-890-63-94. Est-ce que dans ces dépôts aussi, on doit y retrouver des extincteurs absolument?
Alors, le problème avec les extincteurs ici dans la ville de Kinshasa, quelquefois on utilise des extincteurs qui ne sont pas appropriés. Donc, il faut une expertise. Hein, le propriétaire de ces dépôts doit avoir ce qu'on appelle un LOI, donc avoir un programme, un plan d'organisation interne où on identifie les niveaux de chaque compartiment. Quel est son niveau de danger par rapport à l'incendie, et faire une préconisation, prévoir les extincteurs, parce qu'il y en a trois, il y a les extincteurs à poudre, il y a les extincteurs à eau et les extincteurs à CO2. Donc, tu peux utiliser un extincteur, mais qui n'est pas approprié. Donc, ça, déjà, c'est un problème. À part ça, c'est le volume de votre contenu. Donc, dans des entrepôts comme ça, il faut des volumes importants. Là, c'est pour lutter contre les départs de feu. Ne faisons pas une confusion entre un départ de feu et l'incendie. Parce que lorsqu'il y a départ, c'est l'extincteur qui intervient. Mais lorsqu'il y a l'incendie, même l'extincteur est incapable parce que c'est un petit volume. Là, il faut de gros moyens. Ainsi, j'ai parlé des RIA, réseau incendie armé.
Bien, on va accueillir les auditeurs par rapport à cette question. Nous avons déjà Fiston de Guémena en ligne. Bonjour Fiston.
Bonjour journaliste, bonjour à notre invité.
On vous écoute.
Oui, je voulais juste, j'ai quelques préoccupations parce que pas plus longtemps, je ne sais pas, je dis si vous avez suivi que dans les sites de Bondi, il y a eu, à l'espace de plus ou moins deux semaines, il y a eu des cas d'incendie où une société qui mène ses activités sur les carburants a été vraiment partie en fumée, tout est parti. Je parle de la société Molondo. Et puis dans plus ou moins une semaine ici, nous avions assisté aussi à autre cas d'incendie sur les magasins de Chinois, de Shiza, situé juste en face du gouvernorat. Alors, vu ces cas d'incendie à répétition, il n'y a pas eu d'experts il n'y a pas eu vraiment des personnes habilitées à résoudre ces problèmes de ces incendies. C'est pourquoi je voulais demander à l'invité. Puisqu'il y a eu souvent cas d'incendie dans la province d'ici Ubangi, nous, on ne dispose pas des sapeurs pompiers, il n'y a pas souvent l'idée de placer des extincteurs, et puis il n'y a même pas aussi des personnes formées sur ces dossiers. En cas d'incendie, nous constatons que non, une fois que vous venez asperger l'eau, les cas d'incendie augmentent. Une fois que vous amenez aussi des sables pour essayer à éteindre les feux, vous sentez toujours l'augmentation des cas d'incendie. Dans ces cas, qu'est-ce que l'invité peut nous proposer ou prodiguer comme conseil là où il n'y a pas de sapeurs pompés, là où il n'y a pas de personnes formées sur les cas d'incendie, là où il n'y a pas eu installation d'inspecteurs? Voilà au moins quelques préoccupations que je voulais mettre un peu sur la place publique, que l'invité puisse nous prodiguer des conseils, parce qu'ici, dans des sites Ubangi, nous, on n'a pas tout ce que je venais à peine de dire. Et puis, on assiste souvent à cas de répétition d'incendie.
D'accord, merci. On va accueillir Héritier de Bounia. Bonjour. Héritier, bonjour.
Oui, bonjour. Je dis Daniel Kassama. Bonjour, l'invité.
On vous écoute.
Je voudrais savoir, est-ce que ce serait vous les produits La deuxième question est de savoir, est-ce que la société, le ministre des hydrocarbures en a déjà disposé combien de véhicules entiers ça? Parce que nous pouvons parler de l'incendie, mais nous n'avons pas de véhicules qui peuvent éteindre le feu. Au moment où nous en avons besoin. Ici à Bounia, nous avons comme véhicule anti-incendie, c'est le véhicule de la MONUSCO, c'est le véhicule des Chinois, des expatriés qui disposent.
Merci, Héritier. La communication se détériore. Donc, vous dites combien de véhicules anti-incendie on dispose pour faire face à ce sinistre, est-ce qu'il y a que l'essence qui est un produit inflammable ou il y a d'autres produits qui peuvent causer le feu? Monsieur Nixon Zinga.
Oui, je commence par celui d'ici de Bangui. Il dit, dans leur cas, il n'y a pas de corps de sapeurs-pompiers, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il doit savoir qu'il s'agit d'une responsabilité de l'État. La protection civile, c'est l'État. Eux, ils n'en peuvent pas. Un camion de sapeurs-pompiers, c'est 400 000 dollars. Donc, ils ne peuvent même pas se cotiser pour acheter. Donc, il s'agit d'une responsabilité de l'État. Alors, il a dit, il y a des fois, il y a le feu, ils mettent de l'eau, et puis le feu devient encore un peu plus grand qu'auparavant. Oui, parce que l'eau est inappropriée, par exemple, pour le feu d'hydrocarbures. Nous, quand on fait des exercices comme ça, on fait voir à chaque classe de feu le type d'extinction, le type d'agent extincteur à utiliser. Lorsque vous mettez l'eau en chimie, c'est H2O. Donc, l'hydrogène, déjà, c'est un produit inflammable. L'hydrogène brûle. Quand les fusées montent, là, c'est en hydrogène. Donc, quand vous mettez l'eau, vous amplifiez le feu. Dans le cas de feu d'hydrocarbure, comme ça. Donc, l'agent qu'il faut utiliser, c'est du CO2. Alors, le sable, oui. Parce que quand tu mets le sable, en fait, en réalité, étouffe le feu. Parce qu'ils avaient dit au départ, pour qu'il y ait feu, il y a la combinaison des trois éléments. Donc, lorsque vous retirez un élément, les trois éléments, j'ai dit, donc le produit qui brûle, j'ai dit l'air, et puis après, la source d'ignition. Donc, lorsque vous retirez un de ces trois éléments, le feu va s'éteindre. Donc, lorsqu'on veut éteindre avec les sables, ainsi tu vois dans nos stations, il y a des bacs à sable, en fait, on veut étouffer le feu. Même cette méthode, il va tenir lorsqu'il s'agit d'un départ de feu. Mais lorsqu'il y a un incendie, il y a une propagation, il n'y a que les RIA, donc réseau incendie armé, donc une grande citerne d'eau avec des produits, pas seulement l'eau, mais l'eau là doit avoir des émulsifiants, des produits qui se mélangent à l'eau et qui permettent d'étouffer le feu et de l'éteindre. Donc pour la population, c'est difficile, il s'agit de la responsabilité de l'État. La population, c'est des réflexes lorsqu'il y a le départ de feu à utiliser l'extincteur qui convient à ces départs de feu parce que le feu peut être des classes A, des classes B, des classes C, des classes D. Donc voilà pour nos amis du sud du Bangui. Donc il faut, à mon avis, qu'il y ait le gouvernement provincial prenne en charge par une sensibilisation, par des experts et après l'acquisition de moyens. Alors, pour notre ami de Bouillon, ça ne relève pas directement du ministère des hydrocarbures. Ça relève du ministère de l'Intérieur. C'est au ministère de l'Intérieur qui a la direction de la protection civile. Donc, c'est à ces niveaux-là nos autorités prennent des choses en main et développent des réflexes par rapport à la protection civile. Mais au niveau du ministère des hydrocarbures, présentement son excellence nationale, son excellence Didier Bidimbou, a développé un programme de formation qui va prendre tous ces aspects. Donc voilà ce que moi, je peux dire à notre ami Debounia.
Bien. Et il va parler aussi des véhicules anti-incendie. Combien de véhicules anti-incendie doit-on disposer dans une ville comme Kinshasa, par exemple? Est-ce qu'il faut... quelqu'un nous a dit à Bounia, il n'y a qu'un seul véhicule qui appartient à la MONUSCO. Faut-il avoir des véhicules en grand nombre dans chaque commune? Comment doit-on organiser cela?
Nous avons, au niveau de l'IPG, plusieurs études en ce sens, par exemple pour la ville de Kinshasa. Pour la ville de Kinshasa, je ne connais pas Bounia, mais je parle de Kinshasa, je connais Kinshasa, né et grandi ici. Pour Kinshasa, nous pensons avoir des casernes dans les différents districts. Tchango, Moamba, parce que qu'est-ce qui se passe? Les camions sont à la Gombe. L'incendie se réclame à Matete. Par exemple, ce qui s'est passé hier. Donc, lorsque les véhicules vont quitter les points de départ, arriver là-bas, il y a déjà une forte propagation. Mais supposons qu'il y avait une caserne de sapeurs-pompiers à Matete, qui prend en charge Matete, Lemba, toutes ces communes en zone nord. Donc, ils vont partir de là. Et une autre grande difficulté que nous avons, c'est le bouche incendie. Il n'y a pas de bouche incendie dans la ville. Lorsqu'il y a eu des travaux, par exemple, ici à la Gombe, toutes ces bouches, nous, moi j'étudiais à la terrine de la Gombe, je voyais ces bouches d'incendie. Mais lorsqu'on a agrandi le boulevard, la rue 24, les Chinois qui ont fait ces travaux, sans l'expertise nationale, les Chinois ont enterré toutes ces bouches d'incendie.
C'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par bouche d'incendie?
Dans des villes normales, à Kinshasa ici, vers 24, vers Atelier de la Gombe, il y avait au niveau de Macadam une plaque métallique. Quand vous le soulevez, tu vois un tuyau avec un bouchon. C'est là où les camions sapeurs-pompiers devaient s'alimenter en eau. Donc c'est des bouches, un réseau d'eau, donc qui part de la régie des eaux, qui est mise en place. Donc dans les villes, tu le vois, dans les grandes villes, ici, il y en avait. Hein, moi je voyais ça, même l'eau, il y a des fois l'eau sortait dans ces bouches d'incendie là, ici à la Gombe. Mais toutes ces bouches ont été enterrées par les travaux faits par des Chinois en désordre, et voilà les conséquences aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'un camion qui a 8000 litres ou 12000 litres ou 4000, il quitte de son point de départ, il doit avoir un autre camion citerne, parce qu'après il a un problème d'approvisionnement d'eau. Donc pour Kinshasa, moi je suggère quatre sites de casernes de sapeurs-pompiers à Moamba, à Tchango, à Funa et à notre district où les services peuvent quitter avec un camion citerne au départ et après réhabiliter les bouches incendies dans la ville. Et pour Bounia, je ne sais pas. Mais je pense que ça sera le même système qu'à Kinshasa, avoir deux ou trois casernes où les camions peuvent quitter, sapeurs-pompiers peuvent quitter et aller intervenir rapidement là où l'incendie a été déclaré.
Bien, on va accueillir Kachai depuis Kanyoka et Samuel de Kinshasa. Nous parlons de la prévention des incendies dans les quartiers populaires. Vous voulez participer à cette émission? Composez le 081 890 63 94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers, un espace vous est réservé. Samedi dimanche, de 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Capi reçoit et diffuse vos dédicaces. Participez, écrivez-nous à dédicace@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Bien, nous parlons de la prévention des incendies dans les quartiers populaires avec M. Nixon Zinga, président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz. Nous avons en ligne Kachai de Kanyuka. Bonjour.
Bonjour Monsieur Jody Daniel Kachama et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup Monsieur Jody. C'est d'abord avec des chagrins que nous intervenons quand il y a l'incendie des maisons. C'est-à-dire que les propriétaires de ces maisons-là et les habitants vont commencer à se poser mille et une questions. Où est-ce qu'ils vont encore s'abriter? Parce que leurs maisons sont prises en feu. Monsieur Jody, est-ce que faudra-t-il condamner les opérateurs économiques qui nous servent en carburant dans ce pays? Non. Mais si donc ils œuvrent dans le secteur du carburant, quelles sont les précautions prises par l'État congolais pour prévenir certains risques? Ou soit encore, lors de l'avènement des risques, qu'est-ce qu'il faut faire pour intervenir afin de mettre fin aux dégâts. À Kanyoka, messieurs, je dis, pour ceux qui souhaitent ou avaient souhaité le retrait de la MONUSCO, n'évaluant pas les avantages que la MONUSCO a porté dans beaucoup de provinces où il y avait les hostilités, surtout au Kasaï central, plus précisément dans la ville de Kananga, le village Kanyuka n'était pas épargné. Monsieur Jody, il y avait les travailleurs il y avait les travailleurs de la MONUSCO formés dans le secteur de sapeurs-pompiers. Et c'est le fait qu'il y avait des risques, c'est le véhicule, le seul véhicule de la MONUSCO qui intervenait. Pour toute la ville de Kananga, vous connaissez la dimension de la ville, monsieur, je dis. Quand il y avait des incendies, c'est ce véhicule-là de la MONUSCO, qui est d'ailleurs à l'aéroport, qui est à l'aéroport. Pour qu'il quitte l'aéroport jusqu'au centre-ville, c'est une distance. Mais néanmoins, il venait intervenir. Mais depuis que la MONUSCO est partie, monsieur, je dis, il y avait des dépôts de carburant qui avaient pris de feu au centre-ville et même des pertes en vies humaines, pertes en vies matérielles. Nous avons des stations de service éparpillées sur toute la ville, monsieur, je dis, même au marché central de Kananga. Pour ceux qui sont au centre-ville, il y a des stations-service à côté du marché, alors que c'est au marché où les gens se promènent en désordre. Nous avons non seulement le marché central de Kananga, il y a des stations-service partout, même le long de la route, même au parking des motos, des véhicules, des taximens et consorts, monsieur, je dis. Mais parce que l'État a permis tout cela, il a permis la fréquentation, les oscillations intempestives de la population, et parce que aussi les stations-service payent les impôts. Ce qui préoccupe à l'État, c'est le paiement de l'impôt par ces stations-là. Maintenant qu'il y a risque, il y a des dangers. L'État congolais manque l'argent pour acheter. Ça, c'est une question que je pose directement à l'invité là, parce que je ne sais pas dans ce qu'ils font, quel plaidoyer qu'ils font aussi à l'État congolais pourvu que les véhicules anti-incendie puissent être achetés, pourvu que toutes les fois quand il y a des risques, que ces véhicules-là interviennent. Ça, c'est un. Deux, les sapeurs-pompiers, monsieur Jody, il n'y a-t-il pas un service spécialisé dans ce pays pouvoir s'occuper de ces risques-là? Pourquoi nous, ici, nous implorons la situation, même dans les domaines où il ne faut pas implorer? L'État congolais, le ministre des Affaires hydrauliques, je ne sais pas, les dénominations normales, alors, vous ne pouvez pas intervenir. Mais au niveau des provinces, même si nous voulons incriminer toujours le gouvernement central, mais le gouverneur, le chef de division des hydrocarbures, donc, tout celui qui est impliqué dans ce secteur-là, pourquoi vous ne pouvez pas faire des rapports dans les réunions qui se tiennent à ce moment pour que de tels risques soient prévenus? Il y a seulement la politique qui va sombrer dans ce pays, d'autres secteurs de la vie sont négligés. Merci beaucoup, monsieur Jésus.
Merci à Kachaï de Kanyuka pour cette intervention. On va donner la parole à Samuel de Kinshasa. Bonjour Samuel.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la prévention des incendies?
Ah oui, par rapport à la prévention des incendies, moi j'ai la contribution ainsi que des questions à poser à l'invité parce que je ne suis pas expert en matière.
Oui.
Sauf que le constat que nous avons fait comme ici à Kinshasa, nous voyons que le constat est amer. Tous les espaces qui étaient considérés jadis comme des espaces verts, nous trouvons dans quelques jours, vous venez là, le matin vous vous réveillez, vous trouvez les tôles déjà placées, on commence à construire les stations. Maintenant, moi, j'aimerais un peu savoir, ces sites-là, c'était pour l'État, donc ces endroits-là. Mais une fois qu'on érige une station, on ne sait pas, est-ce que ça devient pour les particuliers ou soit l'État continue toujours à contrôler sur cet endroit-là? D'un côté, le ministre national des hydrocarbures était posé une question sur une chaîne de la ville. Autrefois, qui signe les arrêtés ou soit les documents autorisant l'implantation ou la construction des stations? Le ministre disait non, moi je n'ai jamais signé un document. On se demande, je voulais maintenant demander à notre invité, mais qui autorise? Parce que le ministre national dit non, lui n'a jamais signé. Parce que cette fois-là, nous tous, on était à l'écoute, il disait que non, il n'a jamais signé un document autorisant l'érection d'une station service. Maintenant, nous voulons un peu savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui est à la base de ça. Est-ce que celui-là qui est à la base? Mais c'est pas aussi la distance qu'il faut entre une station avec une autre, ainsi que la situation avec l'habitation humaine. Et Enfin, je demande aussi à l'invité de nous expliquer. Je sais pas, je vois que les stations service, on a interdit l'utilisation des téléphones. Alors, je ne sais pas quel mécanisme qui fait à ce que l'utilisation des téléphones conduit aussi à des incendies. Les mécanismes là, jusqu'à je n'ai pas l'idée. Je vous remercie.
Merci Samuel de Kinshasa. Merci pour toutes ces préoccupations. Monsieur Nzinga, à vous la parole.
Oui, je commence par notre ami de Kanyoka qui parlait de moyens à mettre en place hein, dans le cas de l'État. Donc j'ai dit, la protection civile, c'est de la responsabilité de l'État. Donc là, c'est d'abord au niveau provincial, hein, il faudrait que les acteurs politiques, les acteurs économiques, tous soient sensibilisés de ces risques-là. Hein. Il faut une sensibilisation et après les moyens. Je ne suis pas politique, je ne suis pas acteur économique. Donc voilà, on sait hein, comment notre pays fonctionne. Donc voilà, c'est au niveau de la sensibilisation de l'autorité sur les risques d'incendie que nous avons dans nos quartiers, dans la cité. Donc voilà, c'est ce que moi je peux répondre à notre ami de Kanyoka. Pour ce qui est de notre ami Samuel de Kinshasa, il a parlé de stations.
Hein, actuellement, il y a des stations un peu partout dans les quartiers populaires. Est-ce que cela ne représente pas un danger pour la population?
Bon, écoutez, déjà la construction d'une station-service, l'architecture, les designs d'une station-service, les différentes dispositions d'une station-service normale ne permettra pas que par la station elle-même qu'il y ait incendie. Donc, la station est construite pour qu'il n'y ait pas incendie. Toutes les mesures sont prises au niveau de la station. Bon, peut-être les petits privés hein, qui ont des petits moyens de bord, mais lorsque les vraies stations-service, il y en a ici à Kinshasa, les mesures de sécurité sont prises. Mais il y a aussi une autre mesure qui consiste à un éloignement. Par exemple, des parcelles environnantes, certaines personnes parlent d'une loi au niveau de l'urbanisme, je n'ai jamais vu. On parle de 15 mètres, par exemple. Ça, c'est les dispositifs à prendre. Donc, très souvent dans la station, c'est la voiture qui vient s'approvisionner, c'est cette voiture qui peut brûler. Mais la station telle qu'elle est construite, telle qu'elle est faite, pour qu'il y ait incendie lié à la station elle-même, c'est assez rare. Donc les dispositifs sont pris pour que cela n'arrive pas. Que ça ne tienne, s'il y en a, donc on voit dans les stations qu'il y a toujours des extincteurs, il y a toujours des bacs à sable. Donc dès qu'il y a un départ de feu, et dans la plupart des cas, les pompistes, les chefs de piste, tous ceux qui travaillent dans une station, même les boutiquiers, dans la plupart des cas, sont formés aussi. Donc dès qu'il y a un départ de feu, on voit qu'il y a directement l'intervention du personnel qui travaille dans la station.
Donc, vous voulez dire qu'il n'y a pas de danger à voir les stations se multiplier dans les quartiers populaires? Il n'y a pas de danger?
C'est déjà une évolution économique, parce qu'il y a au moins 10-15 personnes qui trouvent l'emploi. Il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Il n'y en a aucun. Si les dispositions sont prises, l'éloignement avec les autres parcelles voisinantes, il n'y a aucun danger. Moi, je suis alimenté. Moi, personnellement, je souhaiterais alimenter, par exemple, après chaque deux rues ou trois rues, qu'il y ait une station. C'est un développement économique. C'est un développement économique. Toutes ces stations que vous voyez, ça signifie que les pays bougent quand même. Donc, il s'agit d'un développement économique. Il y a des gens qui ont de l'emploi.
Alors vous dites qu'il n'y a pas de danger à ce qu'il y ait des stations dans les quartiers, c'est plutôt un développement économique, et les stations sont conçues de manière à éviter les incendies. Et comment expliquez-vous tous les incendies qu'il y a eu dans certaines stations à travers ce pays?
Les stations, à moins que je m'abuse, les différents incendies que j'ai été au courant dans la ville ici, c'est souvent une voiture qui vient s'approvisionner et qui prend feu. Ou carrément une source naturelle. Ah, je crois qu'il y a eu à Rumpungaba un truc comme ça, source naturelle, donc une explosion. L'environnement.
À Rumpungaba, c'était quelqu'un qui faisait le nettoyage du tank, du dépôt souterrain, et un autre qui avait son téléphone, qui a répondu à un téléphone, et puis c'est parti.
Oui, c'est ça. Donc, lorsque les dispositifs sont pris, le feu sera maîtrisé. Et j'ai parlé de la formation. Et quelqu'un qui fait la maintenance, l'entretien d'une citerne, et il a son téléphone. Nous sortons de l'industrie pétrolière. Déjà, à l'accès de certains sites pétroliers, on vous retire vos téléphones. Les téléphones sont éteints. Donc, je vais aussi répondre à notre ami. Alors, qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu reçois un appel, il y a une source électromagnétique qui se crée. Donc, il s'agit maintenant d'une source. Parce que déjà, quand tu es dans une station, il y a les deux éléments qui sont là. Tu as les produits pétroliers et tu as l'air. Donc, il nous manque un troisième élément, donc une source d'émission. Et dans les cas de téléphone, la réception d'appel constitue une source d'émission. Il y a un champ magnétique qui s'est créé, qui fait que maintenant les trois éléments sont là pour qu'il y ait feu. Mais je vois plusieurs fois des gens qui sont dans les stations qui téléphonent. Et quand on lui reproche, il parle, il boude. Donc il y a aussi une sensibilisation pour la population.
Oui. Bien, bon, voilà. On va accueillir un autre auditeur avant de revenir aux préoccupations des précédents. Albert nous appelle de Mbandaka. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur l'invité.
Comment prévenir les incendies dans les quartiers populaires? Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ces sujets?
Merci. Le sujet est très, très intéressant. Ça concerne toutes les familles de la République démocratique du Congo en général, et en particulier ma province de l'Équateur. J'avais quelques préoccupations à poser à monsieur l'invité. Compte tenu des temps, je dois lui poser seulement des petites préoccupations. Ma première préoccupation est celle de savoir. Nous avons 3 mois de transport. C'est reconnu, nous avons les transports aériens, les transports terrestres et les transports fluviaux. Maintenant, qu'est-ce que l'État congolais a prévenu pour la lutte contre les incendies sur les moyens de transport fluvial? Par exemple, il y a eu une incendie récemment
à Maluku,
à la commune de Maluku. En cas d'incendie au niveau du fleuve, aux milliers, prenons par exemple à Bolobo ou à Tumbiri, ou qu'on soit
dans une baleinière.
Dans une baleinière ou prenons chez nous à Makanga. Qu'est-ce que l'État congolais a prévenu pour lutter contre les incendies au niveau fluvial? Et ma deuxième préoccupation est celle de savoir comment se prévenir aux incendies, comment lutter contre les incendies dans des milieux rivaux. C'est-à-dire là, il n'y a pas moyen d'avoir des assises d'incendie là. Qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, je dois suggérer au gouvernement congolais, ici en Mbandaka, par exemple, nous n'avons pas normalement les anti-incendies d'une manière permanente. Mais à ce qui concerne les stations-là, les stations sont partout. Et les stations-là, parce que M. Lévité nous a éclairé en disant que là, on a créé une station. On a déjà prévenu pour lutter contre les incendies. Maintenant, il y a des individus, par exemple, moi, je peux créer une station au cours de la route, par exemple, dans le croisement des avenues, il y a Samaïmouge. D'une façon particulière, lorsqu'il s'agit d'une incendie, et il y aura la perte en vie humaine. Mais lorsque je vends là, il y a les gens qui passent là.
D'accord. Merci beaucoup.
Nous sommes insécurisés d'une manière générale à ce qui concerne les incendies à République démocratique du Congo.
Merci Albert de Mbandaka. On va accueillir Freddy Mukutwa, qui est en ligne. Freddy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'ONG Attention aux hydrocarbures. Vous avez suivi ce qui s'est passé récemment au quartier des Bonhommes, dans la commune de Matete, un incendie au niveau d'un dépôt des produits pétroliers. Et généralement, ces dépôts se trouvent à côté de marché. Les produits sont entreposés, pas dans de très bonnes conditions. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ces genres de situations?
Encore une fois, merci à la radio Okapi qui nous permet de sensibiliser la population en rapport avec la manipulation des produits pétroliers, qui est une manipulation dangereuse. Le cas de Debonhomme, vous avez tout un dépôt au milieu des habitations, à côté du marché, non loin d'une station, parce que j'ai vu les images comment le carburant était en train de couler, la population qui était en train de s'efforcer à éteindre le feu qui s'est dirigé vers la station qui était en bas. Vous constatez que cette situation, nous allons continuer à les déplorer, à dire à ceux qui donnent des documents. C'est-à-dire, je parle du ministère des hydrocarbures, je parle de tout cela qui gère les secteurs des hydrocarbures et peut-être aussi le ministère de l'économie, parce que les hydrocarbures, des fois, se plaignent, ils disent que ceux qui donnent le fonctionnement dans le secteur économique, ce sont eux qui permettent ces installations-là d'être là. Donc, nous devons interpeller les gouvernements et les décideurs qu'ils puissent comprendre que les hydrocarbures sont une matière dangereuse qui nécessite des normes dans l'installation, soit des dépôts, soit des stations, ça nécessite des normes. Et ces normes-là sont connues, ces normes-là sont scientifiques. Et il y a même des lois congolaises qui répètent certaines de ces normes. Alors pourquoi ne pas les respecter? Combien il y aura de dégâts, combien il y aura de morts, combien, comme là, beaucoup de gens ont perdu leur maison, et qui va indemniser ces gens-là? Et nous connaissons ce qui se passe par la suite. Alors nous déplorons encore une fois, M. Jody, ce qui se passe de ce côté-là. Il y a des normes pour installer un dépôt pétrolier, il y a des normes.
Voilà, il y a des normes. Quelles sont ces normes?
Par exemple, un dépôt pétrolier ne peut pas être là où il y a des habitations. Ça, c'est le premier élément. Déjà, à ces niveaux-là, il y a faille. Deuxième élément, dans un dépôt pétrolier, on ne stocke pas le carburant dans des fûts. Troisième élément, les fûts, si on pouvait les utiliser pour stocker certains carburants, les fûts-là doivent être des fûts en métal, pas des fûts en plastique. Et quatrième élément, on manipule les hydrocarbures dans un endroit fermé. Donc tout ce que je suis en train de dire ici, si vous allez à Debonhomme, rien n'a été respecté.
Donc les produits étaient dans des bidons.
Celui qui doit y travailler. Celui qui doit y travailler, il y a une tenue appropriée. Il doit avoir une certaine qualification. Alors tous ces éléments dont je suis en train de parler, à Debonhomme, rien n'a été respecté.
Donc, y a plusieurs dépôts comme ça à travers la ville, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il les fermer ou bien sensibiliser ces gens pour respecter les normes dans ces domaines?
Le pétrole est très important pour l'économie de notre pays. On en a besoin. Cependant, il faut que le secteur des hydrocarbures soit régulé, qu'il respecte les normes, parce qu'on ne peut pas exposer la population une vie... Ça coûte cher, ça n'a pas de valeur. Une vie n'a pas de valeur. L'État congolais doit revenir, revoir ces choses-là. On ne doit pas perdre les gens. Et puis, un problème, un opérateur économique qui perd tout ce qui lui appartient en un seul jour, c'est aussi une vie que vous allez perdre. Et toutes ces maisons qui étaient à côté. Alors, pour ça, nous conseillons qu'on ferme ce qu'il y a d'abord là, qu'on les ferme, qu'on les délocalise, qu'on les amène dans des endroits où il n'y a pas, et qu'on respecte les normes. Vous voyez, c'est pour ce qu'ils font. Ils ont des dépôts, et les dépôts de Seb Congo, les carburants se trouvent dans des tanks. Et ces tanks-là sont normalisés. Il peut y avoir incendie là-bas, mais il n'y aura pas de dégâts, parce qu'il y a des normes, même en termes d'intervention. Il y a des normes. Il peut y avoir un accident, parce que l'accident, les risques zéro n'existent pas, il peut y avoir accident, mais si on a respecté les normes, on va amoindrir les conséquences de cet accident. Et nous, nous disons toujours, souvent, les causes des accidents ne sont pas les causes des conséquences.
Voilà, donc il faut délocaliser ces dépôts. Oui. On les retrouve souvent à la cité. Les Kadhafi vont souvent s'y approvisionner parce que pour dépanner les véhicules qui connaissent des pannes sèches, donc c'est un problème dans la ville de Kinshasa, par exemple.
Mais la gestion d'un État, la gestion d'un secteur ne peut pas être quelque chose qui doit être voué à l'amateurisme. Celui qui vient dépanner les véhicules en panne sèche, nous le disons toujours, ce n'est pas au Kadhafi de les dépanner.
ce n'est pas Kadhafi de les dépanner. Les secteurs des hydrocarbures doivent s'organiser. Les pannes sèches, il n'y en a pas seulement au Congo, il y en a partout dans le monde. Et ces gens-là, ils ont la façon dont ils sont en train de se ravitailler. Nous avions dit ici, une fois sur la radio Capi, en sensibilisant tous ceux qui nous suivent, il y a des récipients métal qui existent, qui peuvent permettre à ce que vous pouvez avoir du carburant en réserve, même dans votre véhicule, que nous appelons communément les jerrycans. Il y en a plusieurs, il y en a de plusieurs formes. Et certains véhicules...
Pas les bidons, on n'est pas utilisé les...
derrière, oui.
On ne doit pas utiliser les bidons pour conserver les produits pétroliers.
Non, tout ce qui est plastique n'est
c'est
pas
déconseillé.
Approprié pour la conservation et la manipulation des produits pétroliers. Pourquoi? Parce que le plastique, comme là-bas, à des bonhommes, allez leur poser des questions. Personne n'a amené le feu, mais les dépôts à pris feu. On dira que c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas de sorcellerie dedans. On doit connaître comment ça fonctionne. Le plastique n'est pas un conducteur d'énergie. C'est-à-dire qu'il garde sur lui de sources de l'électricité statique, je peux le dire en simple, pour que les gens comprennent. Alors, quand il y a des vapeurs des hydrocarbures au contact avec ce plastique, le plastique lui-même est une source de feu.
Voilà, ça dégage déjà la chaleur.
Ben voilà, le plastique lui-même est une source de feu. Donc vous allez constater que ça peut être ça, parce qu'il n'y a personne qui a amené le feu, c'est ce que j'entends, qui sont en train de dire, personne n'a amené le feu, il n'y a pas de la sorcellerie dedans. Ça peut être le bidon en plastique d'un côté, ça peut être aussi l'habit de celui qui y est entré. Il y a certains habits qui gardent la chaleur. Quand vous êtes en train de marcher, le contact, le frottement avec l'air, ça produit une chaleur sur vous. Cette chaleur-là est une source d'énergie. Dans un domaine où il y a les hydrocarbures, où il y a les pétroles, s'il y a des vapeurs d'hydrocarbures, votre habit peut provoquer le feu.
Bien, on va accueillir le dernier auditeur, Glody Bouanganga de Kinshasa. Bonjour Glody.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci pour la parole accordée. Moi je pense que le Congo a un problème.
Lequel?
Dans ce pays, au lieu de trouver des solutions, nous travaillons pour embrayer encore la situation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous regardez peut-être ici à Kinshasa, on construit les stations dans les endroits où, à l'époque, cet endroit-là, les Belges ont réservé ça pour la nature, pour prendre un peu de l'air. Mais vous allez voir qu'actuellement, on construit des stations en désordre. Vous ne pensez pas que les stations-là qui sont en train de construire, ça ne va pas créer les désagréments plus tard? Ça, c'est une parenthèse. Qu'est-ce que je profite pour dire par là? Il y a un problème de négligence. Nous, les Congolais, nous sommes négligents. On ne sait pas quand, on tient compte lorsque le problème est arrivé, mais s'il n'y a pas un problème, personne ne dit un mot. Ce qui est arrivé récemment au niveau de Debonhomme, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez se rendre compte qu'il y a des dépôts de carburant à côté, mais les gens préparent à côté. Et pendant qu'ils sont là en train de préparer, il y a l'air qui circule, et l'air là circule avec de la chaleur. Et quand ça circule, c'est pour ça qu'il y a des incendies comme ça. Alors c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Heureusement, nous n'avons pas vraiment enregistré trop de dégâts matériels, mais ce que nous déplorons, c'est que on ne peut pas parler d'un seul problème chaque année, à tout moment, ce n'est pas du tout normal. Nous devons donner des solutions qui sont concrètes et capables. Tout ça, les problèmes reviennent à l'État. Je pense que l'État
Merci.
Doit prendre sa disposition afin de mettre l'ordre dans ce secteur-là.
Merci, Glody. On n'a plus beaucoup de temps. On va clôturer cette émission. Mais, monsieur Nixon, qu'est-ce qu'on peut retenir pour finir?
Non, on retient que, tu vois, tout le monde tourne autour de l'État, l'État, l'État. Donc, la protection civile, il s'agit d'une affaire de l'État. Donc, il faudrait mettre en place un système qui permet de protéger la population contre tous ces incendies. Donc, je suis de même avis que M. Freddy, il a dit que tous ces dépôts de fortune que nous trouvons dans la cité doivent être fermés. Il faut le fermer. Si on ne le ferme pas, il faut renforcer les capacités de défense contre les incendies.
Bien. Voilà. Nixon Zinga, président du conseil d'administration de l'Institut du pétrole et gaz, merci. Nous remercions également Freddy Moukoutoua, président de l'ONG Attention aux hydrocarbures. Excellente journée et à la prochaine.
Avant yo décision, ma paix. Avant yo kata konsonanga, Tengi kako comprendre un gagné. Bébé, avant qu'il ne soit trop tard, avant que Fanny balaye l'anga, Tengi kako yebi sans gagné.
Par cette note musicale que nous mettons un terme à cette émission de La Vie au Quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Nous disons merci à Marcel Ngombo qui a assuré la coordination et la réalisation de ce programme. Mimi Kindou à la mise en onde. Jeudi, Daniel Kachama au micro. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix et à la prochaine.